Continuer dans ce petit mois de, dans ces deux petits mois d'été, dans nos proverbes, on va voir la puissance de la parole. On va essayer, en tout cas, de voir la puissance de la parole ce matin. Un commentaire a dit ceci: l'arme la plus utilisée par l'ennemi, c'est le découragement. L'arme la plus utilisée par l'ennemi, c'est le découragement. Au découragement, on peut ajouter l'inquiétude, parce que je dirais que l'ennemi se réjouit lorsque nous sommes inquiets, lorsque nous sommes dans le doute. Et lorsque nous sommes inquiets et dans le doute, bien sûr, nous arrivons au découragement. Notre verset de base ce matin pour voir la puissance de la parole de Dieu face au découragement ou à l'inquiétude se trouve dans Proverbes 12:25. Donc je vous invite à prendre Proverbes 12:25. On va dire qu'on va construire, j'ai construit mon message sur ce verset qui ensuite nous amènera d'autres versets dans les Proverbes et aussi dans les Épîtres de Paul. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc, Proverbes 12:25. J'aime le pragmatisme des proverbes. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Verset tout simple. Mais l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Ce mot hébraïque ici traduit par inquiétude, vous voyez, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, j'ai noté, est aussi utilisé dans la Bible pour anxiété, angoisse ou tourmenté. Ce mot-là peut être utilisé pour, et aussi traduit par, dans d'autres versets, par anxiété, angoisse ou tourmenté. Ces sentiments d'inquiétude, d'anxiété, de découragement, chacun d'entre nous, ce matin, nous avons déjà vécu cela. En tout cas, pour ma part, j'ai déjà vécu un de ces mots-là. Et c'est des expériences qui ne sont pas toujours agréables, ou qui ne sont peut-être pas agréables ce matin, peut-être nous sommes dans ce cas-là. Je dirais que lorsque nous sommes dans l'inquiétude, l'anxiété, le découragement, notre corps physique est abattu, c'est une réalité. Notre corps physique est abattu, psychologiquement nous ne sommes pas bien non plus, spirituellement aussi, voilà. Et l'inquiétude nous abat. L'inquiétude nous abat. Parfois, pour certains, le corps physique ne sera pas forcément abattu, mais le spirituel et le psychologique sera très très bas. Parce que l'inquiétude a pris le dessus. Donc la question pratique ce matin: quel rôle la parole de Dieu peut-elle avoir lorsque je suis inquiet, découragé ou angoissé? Donc il y a la réponse des ultra-bibliques pragmatiques, j'appelle. Vous savez, ces gens-là, ultra-bibliques pragmatiques. Alors, il voit le frère qui est découragé, qui n'est pas bien. Et, eh bien, voyons, lis la Bible, ça ira mieux. Voilà, là. C'est juste comme phrase. C'est juste. Mais est-ce que cette phrase nous permet de voir la puissance de la parole? Je crois que non. Je pense qu'il y a plus de profondeur dans les passages que nous allons voir ce matin pour nous montrer que ce n'est pas cette phrase-là qui va faire qu'une âme va se relever. Et Dieu n'utilise pas ce genre de parole pour relever quelqu'un. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Et je crois que de dire à la personne, il faut lire la Bible, c'est ça qui va te, voilà, qui va enlever ton inquiétude, voilà, il faut. Le fond n'est pas faux. C'est la parole de Dieu va jouer un grand rôle, mais la forme n'est pas bonne. Et c'est pas une bonne parole qui va réjouir cela. Donc nous allons essayer de voir quelques versets clés qui vont nous aider à relever la tête, à expérimenter la puissance de la parole. Et nous verrons aussi comment être des outils de Dieu pour encourager des âmes abattues. Parce que dans la vie de tous les jours, dans notre passage sur la terre, nous allons être un jour cette âme abattue, mais un autre jour, nous allons être cette personne utilisée par Dieu pour encourager une âme abattue. Donc on va revenir à notre verset de base, celui qu'on vient de lire, Proverbes 12:25. Et dans ce mot, vous avez vu le mot abattu, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Il faut savoir que ce mot-là, dans la langue hébraïque, est traduit à 90%, même un peu plus, par le mot prosterner ou s'abaisser. Intéressant. Et toujours dans un cadre un peu plus positif. C'est un des seuls moments, presque, je crois qu'il n'y a que 2-3 versets dans tous les versets qui parlent de ce mot-là, où il y a le mot être abattu. La plupart du temps, c'est le mot s'abaisser ou se prosterner. C'est un peu l'idée que tout notre être s'incline devant notre inquiétude. Elle devient notre maître, cette inquiétude. Je m'incline, je me prosterne devant l'inquiétude. Lorsque je suis inquiet, troublé ou découragé, c'est souvent suite à une situation particulière ou à un événement particulier, et mes pensées ont abdiqué et se sont laissés embarquer dans cet état de trouble. Mes pensées se sont prosternées devant cette situation, devant cet événement qui me met, fait que je suis inquiet. Donc oui, c'est ce mot abattement peut avoir une racine intéressante avec ce mot, voilà, ce fait de se prosterner, voilà, d'avoir quelqu'un d'autre qui est en train de contrôler mes pensées, qui m'amène à l'inquiétude, au découragement, à l'anxiété. Mais dans ce même passage, il y a quand même un rayon de lumière pour cette âme abattue, c'est qu'une bonne parole le réjouit. Une bonne parole le réjouit. Alors on va voir d'autres versets qui vont nous aider à comprendre un peu qu'est-ce que cette bonne parole. Alors je vous invite à prendre Proverbe 16, 16-24. On va voir trois versets là dans les proverbes par rapport à ce lien d'une bonne parole qui réjouit l'âme. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Hein? Des paroles agréables sont un rayon de miel. Pas des paroles mielleuses. Hein? Il fait une image par rapport au miel, mais c'est pour montrer voilà la douceur, l'efficacité de ces paroles voilà qui sont là douces. Pour encourager une âme. Et salutaire pour le corps. Nous avions déjà vu ce mot salutaire. Le mot salutaire, c'est un rapport avec le mot de la guérison. Vraiment le fait d'avoir un corps qui est guéri physiquement. Des paroles peuvent encourager, enlever une anxiété qui va permettre que le corps aille mieux. Hein, on avait déjà développé ce mot salutaire dans un autre message dans les proverbes. Autre passage qu'on peut voir, c'est juste à côté, 15-23. On peut regarder le 15-23. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Combien il est agréable pour une âme de recevoir une parole dite à propos. On va regarder un autre verset dans Proverbe qui est parallèle à celui-là, 25-11. On va revenir sur cette notion de la parole dite à propos. Cette parole juste, cette bonne parole qui réjouit le cœur. Donc, Proverbe 25-11, « Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi une parole dite à propos. » Je dirais que c'est un choix judicieux. Hein, quand il parle, pourquoi il est marqué comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, c'est parce que c'est un choix judicieux d'emmener des pommes d'or sur des ciselures d'argent. C'est quelque chose de bien pensé, de bien réfléchi. Et là, il fait cette image, il dit, « Ben voilà, c'est comme une parole dite sur mesure, juste, bien choisie, au bon moment. Une parole dite à propos. » Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons vu l'importance des paroles à l'égard d'un ami. Hein, on avait vu l'amitié, on avait vu qu'on pouvait être des bons voisins, mais qu'on peut être aussi des amis. Et là, nous voyons que lorsque nous sommes abattus, c'est la puissance de la parole, soit lue, soit dite par un être humain, qui va nous encourager. Dans les quatre versets qu'on vient de lire ici, dans les proverbes, il y a quelque chose d'incroyable et de merveilleux. C'est que Dieu va utiliser un être humain imparfait, qui peut être toi ou moi, dans l'objectif de dire des moments à un moment précis, pour une situation précise, pour une âme précise, dans l'objectif que cette âme soit encouragée. Que cette âme abattue reprenne vie, reprenne espoir. Et là, je peux dire que Seigneur, tu es un grand Dieu. Et là, on voit la grâce de Dieu. Que Dieu veuille utiliser, là, c'est pas Dieu qui parle à chaque fois. Il prend une personne qui va dire une parole à propos, qui va dire une parole juste pour qu'une âme abattue soit relevée. Et c'est ça qui est incroyable. Dieu veut nous utiliser, nous qui sommes imparfaits, pour dire des paroles à propos pour une personne qui est dans l'abattement. Dieu veut comme objectif restaurer et encourager. Et donc voilà la grâce de Dieu. Voilà la démonstration de la puissance et de la compassion de Dieu à l'égard de sa création. Et là, je peux dire quel amour! Quelle fidélité, quelle compassion. Ceux qui doutent de l'amour de Dieu, voilà comment Dieu veut agir. Même dans ces passages-là, je me dis, comment on ne peut pas voir la main de Dieu, hein? Cette main qui est là, vous savez, ces jours-là où ça ne va pas, où on ne comprend plus, on est fatigué physiquement, où on ne comprend pas pourquoi les choses se passent comme ça, pourquoi, Seigneur, ça m'arrive encore, telle situation dans ma vie de famille, dans ma vie professionnelle, dans ma santé. Pourquoi, Seigneur, j'en ai marre, je suis fatigué, je suis inquiet de ce qui se passe. Et là, vous allez avoir cette petite parole, soit par votre lecture, soit par une personne qui va arriver, qui va vous dire, voilà, une petite parole des fois, simple, une petite tape amicale. et qui va nous faire du bien dans la journée. Un petit temps de prière. Et voilà. Et là, mes amis, c'est Dieu qui a utilisé une personne imparfaite pour vous encourager, pour vous relever. Quelle grâce. Et il faut savourer ces moments. Il faut apprécier ces moments de la puissance de la parole. Cette petite parole que Dieu a utilisée à travers un autre frère ou une autre sœur, voilà, pour nous encourager. Lorsqu'on est abattu, on espère être encouragé par telle personne ou compris par telle personne. Et souvent, c'est un échec où on est encore plus abattu. Hein? C'est souvent dans le couple, ça. Quand on ne va pas bien, on se dit, bon, j'espère que ma femme va au moins me comprendre ou elle va au moins me dire le mot juste pour m'encourager. Et ça n'arrive pas. Et là, on est déjà abattu, mais là, on est encore plus abattu. Mais pourquoi elle ne me comprend pas? Pourquoi? Hein? Des fois, ça peut être un ami. Très proche, on attend de lui ça. Et ça n'arrive pas. Parce que Dieu veut me parler, veut nous parler, soit personnellement dans sa parole, ou nous montrer que c'est seulement lui qui peut nous comprendre, et seulement lui qui va nous parler quand lui le désire, au moment qu'il veut, pour nous encourager. Et qui va prendre la personne sur mesure pour cela, et pas forcément celle que moi j'attends, ou celle que moi je veux, sinon c'est moi qui maîtrise. Non. Et des fois il va nous amener une personne, on ne s'attend pas du tout, et cette personne-là, tac, elle va nous dire une phrase, un mot, qui va nous faire du bien, qui va nous relever. Et gloire à Dieu. Parce que dans ces deux cas-là, que ce soit par la lecture qui va nous encourager ou par une personne qu'on ne s'y attend pas, dans les deux cas, c'est Dieu qui a le pouvoir et qui maîtrise les moyens de comment il veut nous encourager, veut relever notre âme abattue. De nombreux hommes de la Bible ont connu des moments de découragement ou d'inquiétude, mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que Dieu ne les a jamais laissés tomber. Il les a laissés pendant un temps, des fois dans leur inquiétude, dans leur angoisse, dans leur découragement, mais il ne les a jamais laissés tomber. Certains ont été impatients, en avaient marre d'être dans cette situation-là, ils se sont énervés. D'autres en ont eu tellement marre qu'ils voulaient même mourir. Hein, on peut penser à Élie ou on peut penser à Jonas, hein, qui ont dit, bon allez, stop Seigneur, fini, moi, je veux mourir, j'en ai marre. Hein, donc ça allait loin leur pensée, mais Dieu leur a toujours montré que sa parole avait la puissance de les restaurer. La parole de Dieu, soit lue, soit dite par quelqu'un, a la puissance de nous restaurer et de nous relever. L'apôtre Paul a connu des moments de découragement et d'inquiétude. Il était inquiet pour certaines églises et il a dû passer, je pense, des nuits blanches hein, pour certaines. Il a dû s'arracher les cheveux pour certaines églises. Il devait en avoir ras-le-bol. Mais Paul a appris à être encouragé aussi par la puissance de la parole de Dieu. Que Dieu lui est en train de lui dire, persévère Paul, ne baisse pas les bras. Voilà, tu pries pour elle, mais voilà, continue. Ne baisse pas les bras. Ah, continue à prier pour elle. Quand je dis apprendre, c'est parce que le leader, souvent, d'une église ou des fois même dans la vie professionnelle, le leader pense que c'est toujours lui qui est le moteur. Il pense toujours que c'est lui qui encourage et qui motive les autres. Hein, qui va être là pour encourager ceux qui avancent pas trop, qui sont un peu découragés. Voilà. Et lui, il pense qu'il peut jamais être encouragé, qu'il a surtout pas besoin d'être encouragé, que ça va. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Tout le monde, toute personne a besoin d'être encouragée. Parce que toute personne, à un moment donné, va passer par un moment de découragement sur cette terre. Donc toute personne a besoin d'être encouragée. Et toute personne, au sein du corps de Christ, a besoin de s'encourager mutuellement les uns les autres. Donc on va essayer de voir un passage dans le Nouveau Testament qui nous encourage en tant qu'église locale à s'encourager voilà, dans les moments, de se consoler dans les moments, mais des fois où on est abattu, lorsqu'on est découragé. Donc Paul va encourager les Thessaloniciens à cela. Je vous invite à prendre 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 18. Hein, toujours en parallèle avec ce verset qu'on a vu tout à l'heure. Hein, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une parole sur mesure, une parole puissante, une parole juste, voilà, va réjouir, va relever le cœur d'une personne. Donc je vous invite à prendre 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Et on va lire le verset, pour commencer, le verset 18, et ensuite on va essayer de l'expliquer, de le comprendre, ce verset-là. Donc, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors la question qu'on se pose, c'est quoi ces paroles? Oui, 1 Thessaloniciens 4, au verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc la question qu'on se pose, hein, je répète, c'est qu'est-ce que ces paroles? Alors on va revenir au verset 13 de ce même chapitre pour essayer de comprendre c'est quoi ces paroles. Il faut savoir le contexte un peu, c'est que ces Thessaloniciens étaient inquiets. Il y avait une grande inquiétude et on peut comprendre cette inquiétude, c'est qu'ils voyaient les gens mourir à côté d'eux. Ils avaient entendu parler du retour de Christ, mais le problème, c'est qu'ils voyaient les gens mourir et ils ne voyaient pas le retour de Christ. Parce qu'il faut comprendre qu'à cette époque, les chrétiens du premier siècle de Jésus ne pensaient pas qu'ils allaient mourir physiquement. Ils pensaient que quand Christ leur dit « je reviens, je vais vous préparer une place », ils pensaient être enlevés, eux. Ils étaient tellement dans l'attente du retour de Christ, qui était bon, qu'ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient mourir physiquement. Et là, quelques années passent, et puis ils voient les gens, les chrétiens qui meurent, et ils disent mais c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe? Jésus nous a dit vraiment la vérité. Ils commencent à être inquiets de leur foi, de dire mais est-ce que c'est vraiment juste ce qu'on est en train de croire? Et donc Paul va leur écrire cette lettre pour les encourager, pour les consoler. Et voilà l'explication au verset 13. De consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et ces paroles, c'est « Nous voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance ou dans l'inquiétude au sujet de ceux qui sont décédés, afin que ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Voilà. L'espérance, la foi est en train d'être touchée là. Hein, le côté spirituel est en train d'être touché. « Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, donc voilà notre foi à nous qui est établie là-dessus, sur la mort et la résurrection de Christ, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. » Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette du Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc voilà. Ces paroles, c'est tout ce que nous voyons avant le verset 18 et à partir du verset 13. Et l'apôtre Paul est là pour consoler ces âmes abattues, ces âmes qui étaient inquiètes de ne pas comprendre pourquoi les gens à côté d'eux étaient en train de mourir. Donc croire et saisir à l'enlèvement de Christ n'est pas seulement un point de doctrine qui rentre dans un système théologique. Hein ? Souvent, on entend les gens qui parlent de l'eschatologie, hein, la doctrine de la fin des temps. Voilà, une doctrine qui rentre dans un système théologique. Non, croire puissamment la parole de Dieu, croire que Christ revient nous chercher, c'est un objectif, comme on le voit dans notre message, c'est pour être consolé. Si je crois au retour et à l'enlèvement de l'Église, cette doctrine-là, bibliquement, devrait me consoler, devrait m'encourager. Ce réconfort est fondé sur les affirmations suivantes. Les morts ressusciteront et prendront part au retour du Seigneur. Lors du retour de Christ, les croyants encore vivants seront unis pour toujours avec leurs bien-aimés. Et enfin, ils seront tous avec le Seigneur pour l'éternité. Quel encouragement lorsque nous sommes inquiets, lorsque nous sommes abattus. Christ revient. Le but de croire à l'enlèvement de l'Église, c'est pour consoler. N'oublions pas que nous avons le Dieu de toute consolation, nous dit Colossiens. Dieu assure et promet ce réconfort, à savoir que Christ revient chercher les siens. Et je dirais, mes amis, s'attacher à cette promesse donne du réconfort, car nos yeux ne sont plus fixés sur notre inquiétude, sur notre découragement, mais elles sont fixées sur Christ, elles sont fixées sur son attente, sur son retour. Beaucoup de chrétiens, ne donnent pas beaucoup d'importance au retour de Christ. Ils trouvent cela trop théologique. Oh là là, tu me fatigues encore, c'est quelque chose de futur, oh là là, c'est pas... Le retour de Christ. Mais pour ma part, je le dis honnêtement, ce verset a beaucoup de puissance, parce que quand vous êtes dans le découragement, quand vous avez l'âme abattue, comme on a vu tout à l'heure dans les versets des Proverbes, je vous assure que se rappeler que Christ revient et qu'il est en train de me préparer une place et que je sais que je vais vivre éternellement à ses côtés, je peux vous dire que ces simples paroles sont puissantes et font énormément de bien et relèvent notre âme. Et nos yeux ne sont plus fixés sur mes problèmes, sur mes difficultés du moment présent, mais sont en train de se dire « Seigneur, tu m'as promis un avenir 100 fois meilleur. C'est même impensable comment ça va être là-haut. Et là, je sais que c'est juste temporaire ce que je suis en train de vivre. Mais à tes côtés, ça sera éternel. Et comme on l'a vu tout à l'heure, notre âme sera dans la joie. Notre âme sera dans la joie. Se rappeler que Christ me prépare une place et qu'il revient me chercher, poser mes yeux sur des versets comme celui-ci, console et restaure notre âme. Donc une application pratique lorsque je suis abattu, se rappeler que Christ revient et que cette inquiétude est temporaire, car une joie éternelle en la présence du roi des rois approche. Voilà, application pratique. Je suis abattu, voilà, une parole qui va me faire du bien. Seigneur, ton retour est proche. Je sais que tu reviens me chercher. Pour pour l'éternité. Pour finir notre message de ce matin sur la puissance de la parole de Dieu lorsque je suis abattu, nous allons voir Ésaïe 54, un cantique, une prophétie concernant le Messie, concernant la puissance de la parole face encore à une âme abattue, une âme découragée, une âme angoissée. Je vous invite donc à prendre Ésaïe 50. Donc c'est très poétique hein, ce passage d'Ésaïe 50, puis ensuite vous avez toute cette série 50, 51, 53, voilà, qui sont souvent des passages prophétiques sur la personne de Jésus-Christ, sur le Messie. Et là, en l'occurrence, on va parler de lui, mais qui par une application si pratique pour nous. Verset 4 de Ésaïe 50, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Voilà, on pourrait continuer parce que c'est un passage qui est très beau, mais voilà, moi je m'attarde sur notre thème de ce matin pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. On a vu au début de notre message que dans notre vie sur terre, durant notre passage sur cette terre-là, nous allons un jour être abattus, mais un autre jour nous allons être la personne qui peut encourager la personne abattue. Et nous allons vivre ces deux circonstances de vie. Ici, c'est soutenir par la parole celui qui est abattu. Au début du message, j'ai posé la question, quel est le rôle de la parole de Dieu ? Donc, on a vu qu'elle peut avoir, lorsque je suis inquiet, angoissé, découragé, elle peut avoir cette puissance de me relever, qu'elle peut me consoler, qu'elle peut m'encourager, qu'elle peut me donner la joie. Nous avons vu que la lecture de notre âme peut être consolée, mais aussi par les lèvres d'une autre personne que Dieu aura utilisé sur mesure, hein, une parole dite à propos, nous avons vu tout à l'heure, pour nous encourager. Et ici, ça confirme cette position, car c'est Dieu qui a donné une langue exercée à Christ, ici il parle du Messie, pour qu'il puisse soutenir une âme abattue. Hein, le Seigneur l'Éternel, donc le Père qui est en train de parler au Fils, voilà, c'est le Fils qui est en train de dire « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Et celui qui est abattu, ça peut être nous ce matin. Et Jésus-Christ a reçu du Père, donc voilà cette unité, hein, ce travail ensemble. Le Père voilà, donne au Fils cette langue exercée pour qu'il puisse soutenir une âme abattue. Et c'est par la puissance de l'Esprit que voilà, nous allons être restaurés, encouragés. Celui qui a une langue parfaite, sur mesure pour parler à notre cœur lorsqu'on est abattu. Hein, ça, c'est la personne de Jésus-Christ. Il a toujours la parole à propos, la parole juste pour notre cœur abattu. Une petite précision sur le terme « une langue exercée ». C'est un mot hébraïque qui revient que 5 fois dans l'Ancien Testament. Et c'est l'idée d'une langue habituée, une langue disciplinée. On peut traduire ce mot par les deux mots que je viens de vous citer. Ici, habitué et discipliné à encourager et à soutenir son prochain. Jésus-Christ avait cette habitude, avait cette discipline de la parole pour encourager, pour soutenir les gens abattus. Hein, on peut penser à cette pauvre femme adultère qui est là en train de pleurer. Ils sont tous prêts à vouloir lui jeter les cailloux. Et puis, Jésus, toujours la parole juste. Il est en train d'écrire. Et il va continuer, et là il va voir la parole juste pour cette femme-là. Il dit lève-toi, voilà, t'es pardonné, mais ne recommence pas. Et là, et je vois ce sourire, cette joie dans le cœur de cette femme qui était abattue. Et Jésus va lui redonner espoir, va lui redonner vie. Cette parole juste qui sait soutenir la puissance de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait prendre d'autres cas hein, dans les évangiles hein, où on voit Jésus qui a cette parole qui sait soutenir celui qui est abattu. Et voilà, une parole prophétique écrite plus de 600 ans avant que Christ arrive, qui dit, voilà, le Seigneur l'Éternel a donné au Christ une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Une vie au pied de Christ, une vie entretenue avec Christ, nous permettra d'être des langues habituées et encouragées à encourager des personnes abattues par des paroles sur mesure pour ces âmes découragées. Et je pense que nous avons besoin d'être vraiment quotidiennement renouvelés par la grâce de Dieu, prendre du temps avec notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir ces paroles justes et pas être ces ultra bibliques pragmatiques que j'ai cités au départ. Hein? Mais si, il faut lire la Bible. Non, avoir la parole juste pour encourager une âme abattue. Et pour une âme abattue ou inquiète ce matin, la puissance de la parole veut te consoler, veut te relever en te disant « Christ est là avec toi ». Il va te dire le mot juste, la parole juste. Et surtout, Christ revient te chercher. Christ revient te chercher. Voilà, on va prier. Seigneur, nous avons vu que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Nous avons vu que dans ces proverbes tout à l'heure, que voilà, la parole dite sur mesure à propos peut relever une âme. Et nous avons vu que c'est la puissance de ta parole qui fait du bien à notre âme. Seigneur, aide-nous lorsque nous sommes dans le découragement, inquiets, abattus. Ça va arriver, c'est des faits de vie qui sont normales que nous allons traverser. Mais apprends-nous, Seigneur, à aller chercher dans ta parole ces versets qui peuvent nous encourager, notamment de voir que tu vas revenir. Et que c'est temporaire, ces situations difficiles que nous pouvons vivre. Seigneur, amène-nous des âmes qui vont nous donner des paroles justes pour réconforter notre cœur. Seigneur, utilise-nous aussi pour être des hommes et des femmes qui sachent encourager, avoir les paroles justes, pas les grands dialogues, mais des fois juste cette parole sur mesure pour une âme qui en a besoin. Juste une main des fois posée sur une épaule, un regard qui va encourager notre frère et notre sœur. Consolez-vous les uns les autres. Seigneur, merci encore de ta grâce. Merci de vouloir enseigner ton peuple. Merci de ta parole qui m'encourage, qui me fait du bien. Je prie tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Merci bien. Bon dimanche à chacun. Voilà. Si vous voulez réécouter les messages, hein, on